Excusez-moi une seconde.
Moyen putain, je n'ai que couillement.
Mes chers compatriotes, à l'heure où je parle, les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. Il faut, avant de prendre quelque décision que ce soit, se poser la question, est-ce que c'est bon pour l'emploi ? Toutes les initiatives seront soutenues, toutes les énergies seront mobilisées, toutes les réussites seront encouragées. Et il en sera de même pour la lutte contre l'exclusion. Lorsque nous aurons fait reculer ces fléaux, alors la France redeviendra elle-même terre de liberté, de fraternité, d'égalité des chances, terre de solidarité.
Car je suis sûr, qu'on nous propre qu'on est j'en suis certain. Quelque chose d'être comme parent, car je suis sûr, qu'on nous propre qu'on est j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone.
Waouh, notre ancien jingle, Claude, afin d'honorer la mémoire de cet escroc et super menteur, notre ancien président de la République, Chirac. Donc aujourd'hui, nous sommes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo et Christophe.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler de deux camarades qui sont décédés. Et maintenant, nous parlerons aussi avec Bob, qui vient de Secret de Fabrication, qui est le traducteur, qui va traduire en français tout ce que va nous dire Maria, qui, elle, vient de Lituanie et qui habite en Angleterre, et qui s'occupe des jeux vidéo sur place là-bas. Également Olivier, qui travaille pour STGV, le syndicat des travailleurs des jeux vidéo. Mais maintenant, on va parler de Chirac, si vous vous souvenez bien, parce que il parlait que dans le jingle que toutes les initiatives étaient bonnes à prendre. Mais lui, par contre, il y a beaucoup de choses sur le chômage qu'il n'a pas pu faire, pour le coup, Ludo.
Oui, on se souvient du Chirac libéral. D'abord, il faut rappeler que c'est Chirac qui a créé la NPE en 67 et que c'était son premier portefeuille, en fait, donc au travail et à l'emploi. Et c'est vrai qu'il y a une vidéo sur YouTube qui tourne où on le voit dire toujours un peu les mêmes choses concernant le chômage et surtout faire un appel à l'effort des Français et qu'avec un peu d'effort et d'initiative, tout ça devrait disparaître. Alors évidemment, on peut toujours se dire qu'il n'en croyait pas un mot et que les informations qu'il avait indiquaient qu'il n'en croyait pas un mot, tout simplement parce que son père... Donc Georges Pompidou, on croyait pas un mot lui-même, et qu'on le sait depuis, parce que dans des discours, il expliquait que la mondialisation étant inéluctable, le chômage était appelé à monter. Mais on se souvient du Chirac de 1986, qui était un libéral de chez libéral, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'appelait Facho Chirac, parce qu'il était un peu agressif à l'époque, y compris avec les émigrés d'ailleurs.
C'était le RPR.
C'était le RPR, et tout à fait, et où il a privatisé à tout va... sous l'inspiration de Balladur et puis en étant dans une optique c'était une optique un peu c'était moderne mais en libéralisant la bourse etc. Alors il faut dire que Chirac a comme gouverné avec un credo qui était un credo de droite qui consistait à réduire les déficits et puis on verrait bien, les gens allaient bien, ça allait bien marcher. Hein, et il le répète, même son successeur le répète, Villepin-Lurbette. Alors il y a une exception, c'était quand il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque où la politique keynésienne se faisait encore. Donc effectivement, l'État à l'époque avait réagi au premier choc pétrolier en 74 en faisant une politique de distribution, de relance classique, mais il s'était converti, et donc c'est vrai que le Jacques Chirac qu'on connaît, le Jaco, c'est aussi celui de la fracture sociale. Alors personne ne l'a oublié celle-là, puisque c'est ce qui lui a permis de doubler son compagnon Balladur, son collègue Balladur sur le fil, et bien entendu pour mettre un des présidents qui a été le plus austère de la période qui a suivi, donc Alain Juppé. On se souvient, donc c'est grâce à Alain Juppé que Piassé existe. Et oui, Oui, parce qu'à l'époque, on réduisait la sécurité sociale, le droit des chômeurs, etc., etc. Et c'est le début du mouvement d'Assé. Donc, on doit à Alain Juppé et à Jacques Chirac la naissance d'Assé. Et puis, il y a la période de Raffarin. Alors, oui. Et là, bon, je peux dire que c'était une période, alors, j'allais dire d'immobilisme, mais c'est faux, puisqu'en fait, il y a eu Raffarin comme Premier ministre. Et Raffarin était quelqu'un qui faisait partie des courants les plus libéraux en fait de la droite, et ça s'est vu parce qu'il a lui aussi a privatisé, enfin a réduit les services publics, réduit les droits des chômeurs, notamment avec un ministre que personne n'a oublié qui s'appelait Monsieur Fillon, qui se targuait d'un gaullisme social et qui, une fois aux affaires, réussissait, que ce soit l'éducation nationale ou au ministère du travail, à mettre tout le monde dans la rue, notamment par une réforme des retraites qui était encore plus dur que celle que Balladur. Et alors voilà, alors le chômage a baissé. Enfin, il faut rappeler que le chômage a baissé parce que, d'abord, la précarité a augmenté. Bien sûr. Ensuite, parce que la population active diminuait. Et donc, la population active qui arrivait sur le marché du travail étant moins nombreuse, la baisse du chômage était assez inéluctable. Et puis, il y a eu un autre phénomène, c'est que les statistiques de la NPE n'étaient plus très fiables du fait des radiations. Et donc, en 2007, on se souvient sans doute tous de cette pidonne, en pleine élection présidentielle, l'INSEE a revu de 1% les chiffres du chômage qui étaient plus à 7%, mais à 8%. Voilà, ça n'a pas été possible, ou plutôt elle a suspendu la publication de ces chiffres. Et depuis, officiellement, on peut dire qu'effectivement, on peut toujours dire en fait que en 2007, le chômage était à 7% alors qu'il était à 8%, puisque les statistiques n'ont jamais été révisées. Alors ça peut paraître un détail, mais quand on voit la période actuelle, on est un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire que la précarité augmente, on est dans une fin de cycle qui n'est pas brillante, on peut pas dire, hein, ou une croissance quand même très très lente. On a une augmentation de la précarité, une baisse de la population active, et on a des dirigeants qui disent « nous allons assainir les comptes ». Et on en reparlera en fin d'émission concernant l'assurance chômage. Ça sert de credo politique, ça sert de credo politique depuis 30 ans. Est-ce que ça a vraiment fait baisser le chômage? Il y a d'autres gens, des spécialistes comme Henri Sterdignac qui est venu à cette antenne, qui vous expliquerait que si vous ajoutiez le halo du chômage, c'est-à-dire les gens qui voudraient retrouver un emploi mais qui n'ont pas la possibilité de chercher...
Un emploi à temps complet.
Oui, alors non, juste le halo du chômage, juste les gens qui voudraient retravailler et qui ne travaillent pas du tout, ça fait déjà 1 million de plus de personnes. Et ensuite, il faut ajouter effectivement les gens qui sont en emploi à temps partiel et qui voudraient, donc en emploi à temps précaire, et qui voudraient à temps partiel et qui sont précaires et qui voudraient retravailler à temps plein. Et là, on arrive facilement à 4, 5 millions. Voilà. Et je parle juste des statistiques de l'INSEE, parce que du point de vue de la NPE, ou plutôt de l'UNEDIC, enfin, ou de Pôle emploi, on va dire, est-ce que vous avez vu au fait que la baisse du chômage se traduisait en réduction du déficit de l'UNEDIC?
Pas du tout, non.
Pas vraiment, puisqu'on va faire des économies bientôt. Et donc, c'est bien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ont des petits boulots et qui sont indemnisés à côté. Un chômeur sur deux travaille, oui. Et un chômeur sur deux n'est pas indemnisé.
Et en plus, il y a quand même pas mal de casseroles, les HLM de la ville de Paris, les frais de bouche, enfin bon, jamais condamné, jamais inquiété, quoi.
C'était à l'époque où on faisait de la politique de façon à la gangster, quoi. C'est-à-dire.
Jacques C était roi dans son domaine.
Mais il n'était pas le seul, hein. C'était le plus gros, mais c'était une époque aussi, on faisait une politique, c'était un peu un petit côté mafia, quoi. On finançait comment, on taxait les entreprises, et il n'est pas le seul à l'avoir fait. Je crois qu'un certain Mitterrand l'a fait de façon un peu plus discrète, mais ça finit par lui péter la gueule. Sauf que lui, il y avait une espèce de sentiment d'impunité pour les hommes politiques, ceux qui étaient installés, et qui pouvaient tout se permettre. Heureusement, il faut espérer que cette période est derrière nous.
Très bien, merci Ludo. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est la perte d'un camarade que je n'ai pas particulièrement connu, qui s'appelait Alain. Il était de Clermont-Ferrand. Il participait de façon répétée aux marches européennes, à Novox International. Il luttait aussi pour le logement décent, à l'autoconstruction des logements, pour le coup. Il participait également aux assises d'Assé souvent. Il s'est éteint à 63 ans, ce mois-ci donc, voilà. Toutes nos condoléances aux proches et à sa famille. Il a écrit un petit texte que j'aimerais vous lire, sans l'écorcher j'espère. « Depuis qu'elle m'a offert l'apéro, la faucheuse s'ennuyait de moi. Elle s'est donc revenue pour me conduire à la lumière, mettant les voiles pour les étoiles sur ce lointain rivage où les chants d'amis disparus sonnent l'écho d'un autre âge. Sans doute serais-je incinéré. C'est mieux qu'une fosse commune quelconque, et mes cendres finiront là où le souhaitait mon fils. Peut-être au Bourgeron, petit village d'Auvergnat, aux côtés de mon fils, ou alors dans la vallée d'Aspe, à la goutte d'eau, là où se trouvait la Luna. Moment de fête et de joie, musique, repas, grillades, boissons et fumettes. Je quitterai la rive des rêves d'antan pour partir à la dérive. La terre-mère se meurt au flot de l'humaine bêtise. Il était temps pour moi de n'être plus que cendre, tout le calice est bu. Bise à toutes et tous. C'est un petit texte qu'il a écrit un petit peu avant sa mort parce qu'il se sentait partir. Et donc il y a également une autre personne qui est partie également, quelqu'un que nous connaissions ici puisque nous l'avions invité à cette émission.
C'est Sophie Ancard.
Sophie Ancard, hein,
qui a animé pendant 10 ans le site Actu Chômage, oui, des collègues, et qui épluchait régulièrement toute l'actualité du chômage pour en faire une lecture critique. Elle a fait un travail vraiment extraordinaire. Cet article était vraiment très, très, très fouillé. Et elle faisait ça toute seule, hein, dans sa chambre, sur Internet. C'était une précurseur des sites en ligne, on aimerait dire. Et elle a été touchée par la maladie. Donc,
un cancer, voilà, je crois.
Bon, normalement, elle n'aurait pas eu longtemps à vivre, mais finalement, elle a vécu un peu plus longtemps que prévu. Et bon, voilà. Et donc, on tient vraiment à lui rendre hommage parce qu'elle a fait un super travail, mais c'était une belle personne.
Oui.
Qu'on a invité ici et qu'on a été vraiment heureux de recevoir.
Proche d'AC, féministe, enfin tout.
Proche d'AC, oui, bien sûr, féministe et proche de tous les mouvements de chômeurs, bien entendu.
Oui, moi j'adresse notamment à ses petites filles et puis sa fille, mais ça sert condoléances pour Sophie, qui était une très belle personne, effectivement, mais qui en plus posait clairement dans sa flamme de vie, sans le dire haut et fort, avec des grands discours, posait le fait qu'on avait le droit à sa place dans la société, dans une grande dignité, et que le travail n'était pas un tout, et c'est pas parce que on arrivait avec un look un peu destroy, qu'on n'était pas pour moins compétente. Elle a souvent été heurtée à ça, alors que c'était une grosse bosseuse. Voilà.
Et vous rappelez qu'elle travaillait dans l'industrie du disque, et effectivement, donc elle avait des goûts musicaux, enfin tout, et le look aussi qu'elle avait.
Bah, nous saluons tous les proches et les familles de ces deux personnes que nous connaissions plus ou moins de près ou de loin, qui sont des camarades en fait de combat. Donc on va passer une petite chanson ou un petit jingle, je ne sais pas, Claude, et ensuite on prendra la parole avec nos invités.
Excusez-moi une seconde.
Ouais, putain, je nique les couilles molles !
Mes chers compatriotes, à l'heure où je parle, les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État.
Il faut, avant de prendre quelque décision que ce soit, se poser la question, est-ce que c'est bon pour l'emploi ? Toutes les initiatives seront soutenues, toutes les énergies seront mobilisées, toutes les réussites seront encouragées. Et il en sera de même pour la lutte contre l'exclusion. Lorsque nous aurons fait reculer ces fléaux, alors la France redeviendra elle-même. Terre de liberté, de fraternité, d'égalité des chances, terre de solidarité.
Car je suis sûr, qu'on nous propose qu'on est j'en suis certain. Quelque chose d'être comme parent, car je suis sûr, qu'on nous propose qu'on est j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse.
Oui, à nouveau, Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Alors ce soir, je suis avec Maria, qui est donc lituanienne, c'est ça ? Et qui habite à Londres aujourd'hui, voilà, et qui est de passage à Paris. Voilà. Donc elle ne parle pas le français, mais nous avons à côté de nous Bob, qui est le traducteur ce soir et qui, bien sûr, est l'animateur principal de Secret de Fabrication.
J'ai le droit de faire grève ?
Et Olivier, qui travaille donc pour le STVG, c'est ça ? Le syndicat STGV. Le syndicat des travailleurs des jeux vidéo. voilà, qui est avec nous. Bonsoir. Donc on va parler des jeux vidéo, Christophe, ce soir. Première question, comment, Maria, tu es venue à travailler dans ce genre de travail?
Hey, hi. First of all, thank you so much for covering this. This is incredible that for the first
d'abord,
time we're actually talking about the fact that
de couvrir cet événement.
Video games industry is actually a very terrible place to work.
Et en fait, l'univers des jeux vidéo est un monde assez impitoyable pour travailler dedans, en fait.
D'accord.
And all the loveliness that, you know, gets to be inside the games, actually outside of it, the people that are creating them are really suffering.
Voilà, c'est ça. C'est un monde merveilleux quand on joue aux jeux, etc. Mais quand on est dans l'environnement de travail, là, on souffre.
Pourquoi? Parce que c'est open space, c'est quoi? C'est une hiérarchie un peu difficile?
Sure, I mean, every developer, I suppose, thinks that they're going to be a boss one day. So
tous les développeurs pensent qu'ils seront un patron un jour. Donc il y a une tentative d'environnement très horizontal.
So of course hierarchies develop and
évidemment
intense relationship between the boss and the worker.
Ouais, il y a évidemment une hiérarchie se développe toujours et ça crée des relations très tendues en fait entre la direction et les travailleurs.
D'accord. Et ton poste exact dans l'entreprise, c'est quoi exactement?
What do you do exactly in the field of video games?
Sure. So I'm a journalist in talking about video games and politics.
Je suis journaliste sur le sujet croisé des jeux vidéo et de la politique.
And I am also the head of communications for Game Workers United International.
Et donc je suis aussi à la tête de la communication de Games Workers United International, qui est donc un syndicat international des jeux vidéo, des travailleurs des jeux vidéo.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Je vais revenir à toi par la suite. Donc, Olivier, toi, tu es aussi également dans le jeu vidéo. C'est quoi ton travail exact dans ce domaine?
Bonsoir. Merci bonsoir. Aussi pour l'invitation. Et moi, oui, effectivement, je suis programmeur dans l'industrie. Donc, j'ai un certain bénéfice dans le sens où c'est clairement pas le poste le moins bien traité. Mais bon, déjà, je peux voir les conditions de tout le monde autour. Et malgré tout, on n'est clairement pas non plus des privilégiés, on s'en fout.
Alors, le STVG, c'est quoi exactement?
Le STJV, c'est une histoire d'en fait. Le STJV, donc, c'est une histoire de réaliser, comme beaucoup de gens dans l'industrie, à l'étranger comme en France, que en fait, on avait des vrais problèmes qui étaient spécifiques à notre industrie, aucun vrai syndicat qui était implanté dedans, et un mépris complet de la loi, des conventions collectives en application quand il y en avait. Et du coup, un rassemblement de personnes qui ont fini par créer donc ce syndicat il y a 2 ans. Et du coup, depuis, on fait du soutien, enfin, travail syndical, je pense que jusque-là, j'apprends rien à personne.
Donc, est-ce que ça sous-entend que dans le domaine des jeux vidéo, il y a des précaires, des gens en CDD, des gens qui font 2 heures par jour seulement, ou ce genre de choses?
Il y a beaucoup de formes de précarité différentes. Il y a pas mal de contractants. Enfin, on dit freelance parce que c'est une industrie tech, donc très, très anglicisée. Mais du coup, donc, il y a beaucoup de freelance qui sont pas forcément super bien payés malgré ce qu'on les promesses qui sont faites. Il y a aussi beaucoup de CDD, effectivement, notamment dans les grosses boîtes, parce que ça permet de pouvoir renouveler à la fin du projet, pour pouvoir un peu avoir beaucoup de personnes sur les périodes de rush, qu'on appelle crunch dans l'industrie, où on fait beaucoup d'heures supplémentaires, et derrière se débarrasser de ces personnes en fin de projet comme si de rien n'était. Donc effectivement, il y a des CDI, le Graal existe, mais malgré tout, ça ne veut pas dire que les droits sont bien respectés, les licenciements abusifs sont nombreux, et les syndicats ne sont pas encore suffisamment implantés dans l'industrie, on fait ça au fur et à mesure, du coup, on se défend comme on peut, mais voilà.
Pourtant, les jeux vidéo génèrent beaucoup d'argent, j'imagine.
Oui, c'est, cette année, selon les chiffres du CEL, le syndicat des éditeurs, on est à 4,5 milliards en France.
D'accord.
Donc je vous laisse imaginer qu'aux États-Unis et au Japon, qui sont des industries autrement plus grosses, ces chiffres sont bien plus grands. Donc, comme disait Mariam, c'est la première industrie culturelle au monde, a priori en termes de revenus. Et clairement, ce revenu ne descend pas jusqu'aux salariés, jusqu'aux freelance, jusqu'aux travailleurs en général.
Très bien, je te remercie. Christophe, tu veux intervenir?
Oui, à Mariam, une petite question. Moi, j'ai travaillé dans le domaine du jeu pendant des années, mais au niveau pédagogique, entre autres. Mais pour moi, ce que j'ai vécu en termes d'expérience, puisque j'ai fait du game design, c'est que l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment une des premières industries de haute technologie qui à intégrer la mondialisation avec tout ce que ça sous-entend derrière. Et est-ce qu'elle pourrait développer par rapport à ça pour bien qu'on se rende compte des conditions de travail épouvantables de certains salariés dans ces boîtes ?
So again, I am very keen always in my mission of talking about game workers to also include the terrible plight of the workers in the global south, right? Because of the creation of the hardware.
Toujours très intéressé, c'est très important de parler des conditions de travail dans le sud global, dans cette industrie, parce que...
This is why it's Game Workers International, right? It's not only people creating software, we always have to think about the people also creating the hardware. Other than that...
Donc il faut penser toujours de manière internationale, non seulement aux gens qui sont en train de créer les logiciels, mais aussi les gens qui sont derrière en train de créer le hardware.
Game workers, it's a very broad concept, I suppose, but the way that they are treated can be very different in very different countries, right? So we have, I suppose, fairly well-paid people in the global north, but more and more work is getting outsourced to Eastern Europe or to Southeast Asia. And so, again, whenever we're talking about unionization, we really need to be talking internationally.
Oui, c'est ça. En fait, il peut y avoir du travail très bien payé dans le nord, et pas tout encore, on a vu, hein, puisque les conditions se dégrade, mais par contre c'est clair qu'il faut toujours penser au fait que bah, il y a des usines à programmer et des usines à fabriquer dans le sud où les gens sont extrêmement maltraités, et donc il faut toujours avoir cette optique là internationale. C'est pour ça que Games Workers se considère comme une instance internationale et cherche à s'étendre internationalement.
And within one studio there will be a huge difference between, you know, a lead designer, the glamorous sort of, you know, the artist that gets all the social capital, and the people that are perhaps only testing the game, people that are on 0 hours contracts, that are paid minimum wage, who are really, really underappreciated, but then companies will still call this one whole studio a family, and yet there's disparity is huge.
C'est ça, dans un studio, on aura les stars, les top designers qui sont, dont le nom sera marqué sur le jeu, donc ils font un peu la renommée du jeu, ils sont traités comme des stars, etc. Mais il faut penser aussi qu'il y a des testeurs, il y a des petits codeurs sur des petits bouts de patch et compagnie, et que tout ce monde-là, bah, ils ne sont pas forcément reconnus de la même manière. Et pourtant, dans l'entreprise, ce sera sans arrêt le même discours, comme quoi c'est une grande famille, comme quoi tout ça, on est tous solidaires, et que c'est horizontal, alors qu'en fait, il y a des très grandes disparités et de revenus et de conditions de travail au sein d'une même entreprise et dans toute l'industrie en général.
And sadly, just to talk about a very recent case that's very close to my heart right now, you would think that, for instance, there is, you know, a big... I don't know, I suppose, a difference in culture between the big studios and the small indie ones. Just yesterday, we had to bring up a huge case of the chair of our trade union being fired from a very prominent indie games company for being a trade unionist. So again, it's not only the large AAA companies that are at fault here.
Mm-hmm. Donc il faut voir que là, on a un élément d'actualité dont on va parler à la radio. Là, c'est que en fait, le secrétaire national, donc de tout nouveau, hein, de Games Workers United, vient de se faire virer alors qu'il travaillait dans une grosse compagnie de jeux vidéo indépendante. Donc ça peut être à tous les niveaux qu'on trouve cette. Il s'est fait virer. Alors il le nie, mais il s'est fait virer parce qu'il est, secrétaire national du syndicat, parce que c'est un syndicaliste. Donc on voit bien que à tous les niveaux de l'industrie, il y a un combat à mener pour le respect des droits, quoi.
Alors justement, par rapport à ce que tu disais, dans ton entreprise, il y a aussi peut-être beaucoup de gens qui sont en CDD, précaires, comment ça fonctionne? Quels sont les niveaux de salaire entre les différents personnels?
I mean, again, it's a very international affair, right? So, you know, the heads of Activision Blizzard, for instance, people like Bobby Kotick, he has something ridiculous like $8 billion in his pocket, right? So, again, he's very much the person that is capitalizing on the fact that video games are the biggest cultural outlet there is.
Mm. Donc, si on prend par exemple le PDG de Activision, qui va gagner, il a en ce moment, il a 8 milliards en poche. Donc, clairement, c'est lui qui profite en fait de l'internationalisation et du caractère aujourd'hui mainstream des jeux vidéo. C'est à lui que ça bénéficie et pas à tous les gens qui travaillent dans le secteur.
And yet, in the year where the company has received the biggest profits this year, they have laid off 800 people just again to squeeze on those margins.
Voilà. Et là cette année, ils ont fait les profits les plus mirobolants de leur histoire. Ben, la compagnie a quand même viré 800 personnes pour améliorer encore ses marges.
Then again, And in smaller countries, for instance, I was just visiting Denmark, and people are a bit worried about their profit margins because, you know what, they actually pay tax. They actually treat their workers much better. There are actual unions there.
Mm. Et donc, et alors le problème, c'est qu'on voit, par exemple, dans un pays comme le Danemark, où les compagnies payent leurs taxes, respectent un certain nombre d'éléments de droit du travail et de conventions collectives, en fait, ils sont en difficulté puisqu'ils sont face à la concurrence qui, elle, ne respecte aucune de ces règles. Et donc, ils sont en difficulté, ils ont peur, effectivement, pour la survie de leurs entreprises.
D'accord. Christophe ?
Moi, j'ai une question, c'est que les budgets marketing des grands studios de jeux vidéo sont très importants. Et l'une des questions qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que la presse ne peut pas exercer son droit de regard du fait qu'ils sont complètement dépendants de la publicité de ces grands studios ?
Tu veux répondre à la question ou éventuellement ? Non ? Non ? D'accord. Non ? Ok, très bien. Alors, on va écouter une petite chanson, si vous voulez bien, et ensuite, on parlera du côté un peu politique de la chose, du syndicalisme, principalement. On écoute. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Nous sommes toujours avec les mêmes invités aujourd'hui. Bonjour à vous et merci d'être venus. Vous reviendrez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc Christophe, tu avais une question à poser qui était apparemment assez importante, dis-moi.
Oui, parce que avec l'arrivée des nouvelles technologies, de tout ce qui est studio, création en général numérique et puis du jeu vidéo, à un moment donné, il y a un inspecteur du travail très connu en France qui s'appelle Gérard Filoche qui posait le problème du contrôle de ces entreprises. Et moi, j'ai envie de poser à Mariam, puisqu'elle a une vision internationale, est-ce que la notion de contrôle par rapport au respect de la loi, c'est une chose qui est complètement hors sujet dans le monde du jeu vidéo et puis ensuite un petit peu en France. Comment tu peux répondre par
rapport à ça ? Commence par Olivier.
Quoi, Olivier.
Peut-être quelques petites.
Le contrôle par la loi, en fait, le problème, c'est qu'il y a. Enfin, pour plein de facteurs, les employés eux-mêmes se défendent pas de manière générale. Déjà parce que les conditions sont clairement pas ouf, mais on est vraiment dans une industrie vue passion et où il y a énormément de personnes qui veulent rentrer sur tous les postes, même les postes les plus entre guillemets mieux traités, et du coup ça fait qu'il y a le vrai syndrome du je tape dans une poubelle, il y en a 10 comme toi qui ressortent, donc si tu fais quoi que ce soit, tu vas prendre cher. De fait, l'inspection du travail, ça reste souvent une menace, mais malgré tout il y a beaucoup de patrons qui en ont pas grand chose à faire, en fait, et de fait De manière générale, par rapport au respect de la loi et les forcer là-dessus, en fait, on est dans une industrie qui a déjà très, très peu souvent des conventions collectives, enfin, qui en a quand même souvent, pardon, mais qui a pas une convention collective à sa branche, je voulais dire. Et les conventions collectives qu'il y a, la majoritaire, c'est Syntec, la convention des cabinets du bureau d'études techniques, sont toutes pourries, en fait, absolument pas adaptées au milieu, défendent extrêmement mal les gens, et même ces conventions là ne sont pas respectés malgré les différentes interventions possibles. Et typiquement, un exemple qui est arrivé en France, c'est l'année dernière, il y a 22, la moitié d'une entreprise qui s'appelle Eugène Systems dans le centre de Paris, qui a fait grève pendant 7 semaines, la première vraie grève de l'industrie, qui a fait cette grève parce qu'en fait, elle est aucune des conditions de sa convention collective, même des problèmes de code du travail par rapport au paiement des heures supplémentaires, etc., n'étaient respectées. Et cette semaine de grève, c'est malheureux à dire, ont eu certes un énorme impact international, mais n'ont pas abouti à un retrait de la direction. De fait, au final, quelques mois après, au fur et à mesure, les gens sont partis, et quelques mois après, les derniers grévistes présents se sont fait virer, en fait. Donc, malgré tout, même en se battant, on a certes un impact, et je pense que plus on le fera, plus on en aura, mais la loi et les conventions collectives, c'est vraiment pas un truc qui pose problème au studio. Et si l'inspection du travail fait menace, je pense que c'est dans l'affaiblissement ces dernières années, n'aide clairement pas.
si je peux juste intervenir sur un mode un peu personnel, je me sens directement concerné là ici, n'est-ce pas? Non, mais en fait, le problème, c'est que pour des entreprises de qui sont très précaires comme ça, la précarité est une protection en fait contre la loi, parce que à force de précariser les salariés, ils deviennent peu conscients de leurs droits. Évidemment, ça donne des phénomènes comme t'as une bande de gens qui s'organisent pour faire grève, mais en fait, la moitié d'entre eux vont partir parce que de toute façon, c'est un peu le devenir dans l'entreprise, c'est-à-dire que dans ce corps, on est plutôt tendance à partir, fluctuer, aller voir ailleurs ou se mettre en freelance, alterner, et donc résultat net, tu vas perdre une partie en fait des activistes et tu te retrouveras avec des isolés qui vont pas durer dans la boîte quoi. Donc pour nous, quand on intervient, ben nous on a besoin d'avoir un minimum d'identification d'équipes syndicales en place, un minimum de gens sur qui on peut compter pour connaître l'intérieur de la boîte, parce que juste débarquer comme ça et demander à voir les papiers et tout ça, en fait ça va nous servir à rien.
Oui, non,
mais on manque de ce relais. Non mais c'est intéressant parce qu'on manque de ce relais à l'intérieur des boîtes, parce que ben, justement ils ont tellement explosé la main d'œuvre que en fait ben, intervenir sur ce secteur là c'est difficile pour nous quoi. C'est
je critique absolument pas l'inspection du travail qui au demeurant fait clairement bien souvent son boulot, c'est juste que le milieu est bien bien pourri et que c'est compliqué d'intervenir dans ces conditions, c'est sûr.
Et toi, dans ta société, c'est à peu près la même chose. Il y a comment on peut dire qu'il y a des gens qui sont très précaires et puis qui se révoltent un petit peu, qui font des manifestations.
Right, so look, first of all, we need to look at the fact that it's an extremely young industry, right? It's only 50 years old, and it really is born from this sort of dream of these people thinking that they're just, you know, they're going to play games all day pretty much in their job. So for 50 years, employers really have been abusing this. However, they used to be fairly secure jobs, fairly full-time jobs, but in the last, I'd say, 10 years, we have seen a real deconstruction of those sort of middle-class jobs, where we see more introduction of outsourcing, freelancing, and subcontracting. So they're really taking away bits and bobs. Mm.
Alors, dès le début, faut voir qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation. C'est que d'abord, un, c'est une industrie qui est quand même très jeune. Elle a 50 ans. Déjà, à la première constitution des ordinateurs, elle a mis du temps à prendre son développement, plein développement. Et évidemment, dès le début, ça a été une industrie où on pensait que les gens qui y allaient dedans pensaient qu'ils allaient jouer au jeu toute la journée, quoi. Et donc, ils sont venus un peu tranquilles, décontractés. Et en fait, les patrons ont abusé de cet état d'esprit pendant des années et des années. Mais néanmoins, c'est là où c'est pire, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de boulots, col blanc, un peu installés, un peu classe moyenne et stable à une époque de l'industrie. Mais ces 10 dernières années, vraiment, on a vu une accélération dans tout ce phénomène de sous-traitance et d'externalisation qui a vraiment explosé. C'est-à-dire que les employeurs ont vraiment mené une offensive pour exploser le secteur et le précariser.
There's this sort of cultural gaslighting almost where they think they're going to insert like free bars or like, you know, a mini golf table or have these corporate trips or whatnot and create a sense of a family within the company. But they will actually strip away your contract to nothing and even impose clause in your contract that is very prevalent in US and is actually creeping in UK, where there'll be a non-disclosure agreements in your contract where you can't talk publicly about your working conditions. Mm-hmm. And something that Riot Games have actually walked out of their workplace for a whole day as a strike against that.
Mm. Alors, faut voir que c'est, il y a un côté très manipulateur dans le discours, dans tout ce qui est mis en place par les directions pour faire croire à une grande famille. Alors, on va mettre par exemple des mini bars dans les salles de production. On va faire des voyages organisés pour souder les équipes. On va donner toute une série d'avantages. Et de l'autre côté, avec l'autre main, ils vont tailler en pièces toutes les garanties contractuelles, insérer des clauses dans les contrats, et récemment là on voit se développer par exemple des clauses de confidentialité qui interdisent aux salariés ou aux contractants de parler en fait du boulot, c'est-à-dire qu'ils sont interdits d'expression publique sur leur job, leurs conditions de travail, et évidemment voilà, tout ça pour soi-disant protéger les secrets de fabrication comme on sait, mais en fait en réalité c'est pour que les salariés ferment leur gueule et bossent.
However, I will say I'm actually extremely hopeful because video games industry is one where the creator of the product is actually very close to the consumer of the product. So in the last couple of years, since these bad stories have been trickling down, we've seen a lot of players themselves, so the consumer, really revolting against this. So many players that have now heard that their product, the game that they're playing has been created under terrible conditions, are revolting, and we're seeing boycotts of games. We're seeing seeing players really taking up to social media to accuse these corporations of bad practice, and I think that's so unique and wonderful actually.
Alors on a, il y a quand même une note d'espoir, c'est que c'est un milieu dans lequel le créateur du jeu n'est pas très éloigné du client final, c'est-à-dire que le joueur de jeu connaît son créateur, enfin en tout cas il y a une certaine proximité, on dirait il est pas complètement isolé. Et donc au fur et à mesure que ces histoires finissent par sortir quand même, c'est-à-dire qu'il y a des studios qui sont déconsidérés et des conflits qui sont publicisés, au fur et à mesure en fait on s'aperçoit que les joueurs eux-mêmes souvent prennent parti en fait pour les créateurs de jeux et pour les travailleurs du jeu vidéo, et on a vu des campagnes sur les réseaux sociaux pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, des campagnes de boycott de tel ou tel jeu à cause des conditions de production, et que donc quelque part il y a une réactivité du client que assez exceptionnelle et qui donne quand même de l'espoir.
D'accord. Mais par contre, là, si on passe sur le côté un peu syndicalisme de la chose. Est-ce qu'il y a, en Angleterre, en tout cas, un cadre juridique, des conventions collectives ? Comment ça fonctionne un petit peu de ton côté ?
Legal cadre in Great Britain, are there collective agreements, and is the union recognized in the way?
Right, so the union was born only in December last year, so it's less than 1 year old, and it was the first that was born from the Global Game Workers Unite International movement. Quietly, a lot of members have already received payouts and incredible legal support, but they haven't been ones that would be able to come out with their cases publicly. So although a lot of victories have actually been achieved by Game Workers Unite UK, which is a branch of Independent Workers Union of Great Britain, a lot of it has kind of sadly stayed quiet. So this, what has happened yesterday with Us Two Games firing our chair, has been the first large public campaign. But the union that Game Workers Unite UK is part of, Independent Workers Union of Great Britain, represents workers in Deliveroo and Uber drivers and cleaners and foster care workers. It's an extremely militant, small, radical new union that we are very hopeful to see incredible things coming out from.
En termes de cadre légal, il y a eu beaucoup d'actions. Alors, il faut voir que JWU est un très jeune syndicat, encore plus que le STJV, puisqu'il a un an d'existence. C'est le premier syndicat national, enfin, c'est constitué en section nationale de Games Workers United International. D'accord ? Donc, tout ça, on est en train de parler dans des phénomènes assez récents. Lors de la dernière mission où Mariam était intervenue, elle nous avait expliqué que c'était des choses qui avaient démarré sur les chapeaux de roue et que la structuration était allée très vite. On se retrouve avec la situation où, effectivement, il y a eu plein de petites victoires, mais à bas bruit. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de campagnes publiques sur les victoires qui ont été engrangées. Donc, pour le moment, c'est beaucoup de travail, on va dire, de petites mains en silence. Il y a eu peu de campagnes publiques. C'est pour ça que la campagne, aujourd'hui, qui a démarré hier, sur le licenciement de...
Austin Calmore.
Austin Calmore. C'est ça. De Us Two Games. Donc la compagnie. Notez bien le nom de la compagnie. Us Two Games est une compagnie qu'il va falloir boycotter. Voilà, c'est ça. et là, c'est la première fois qu'il y a un enjeu de publicisation et que le combat vraiment passe dans le public avec cette volonté de dénoncer le licenciement abusif de ce syndicaliste. Ça, c'est la première passe d'armes vraiment publique, et on va voir au pied du mur ce qu'on peut faire. Alors, on est relativement confiant parce que la centrale à laquelle on s'est affilié, donc IWGB, donc Travailleurs Indépendants de Grande-Bretagne, est une centrale qui sait syndiquer justement des milieux très déstructurés comme les coursiers à vélo de Deliveroo, comme toutes sortes de personnels qui sont sous-contractés, travailleurs temporaires, etc. Et donc très difficile à syndicaliser, mais c'est une petite centrale qui est très dynamique, très militante, et qui donc se prend à bras le corps ce problème de syndicalisation dans les milieux difficiles. Donc on a beaucoup d'espoir de continuer à s'implanter.
Well, again, just to sort of finish, like in the midst of all this darkness, I am actually very optimistic because in the past 2 years, we achieved 27 chapters in 5 continents and 4 legal trade unions. It's huge.
Voilà. Donc il faut rester optimiste, hein. Même dans des périodes très sombres comme la nôtre, on a réussi quand même en très peu de temps, en un an et demi, JW International a quand même monté 27 sections sur plus de 5 continents, et il y a déjà 4 syndicats qui ont été légalisés, reconnus légaux dans leur pays. Et donc ça veut dire que c'est possible de construire dans ce secteur, et on peut faire des surprises, et il faut rester optimiste.
Continuons le combat, alors il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, même question pour toi, Olivier. Est-ce que, en dehors des gens qui ont fait grève, là, dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a effectivement des gens qui se mettent en syndicat, qui effectivement agissent font des actions un peu fortes, genre coup de poing, genre de choses ou pas?
Effectivement, on a de plus en plus de personnes qui syndiquent, mais il faut quand même voir qu'un des problèmes sur lequel autour duquel on tourne depuis tout à l'heure dans cette industrie et qui vient de la tech, je pense, de ces milieux-là, c'est la très forte dépolitisation du milieu. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes se font écraser et aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas forcément évident de s'implanter. Mais effectivement, ça vient au fur et à mesure parce qu'il y a de plus en plus d'affaires, parce que ce dont on parlait tout à l'heure, les 800 licenciements de Activision Blizzard, ben en fait, chaque année, c'est des milliers qui sont licenciés comme ça dans toutes plein de boîtes et c'est devenu presque quelque chose de normal. Et en fait, justement, faire sortir les gens de cet état de normalité, ben, du coup, en les syndicalisant, je pense que c'est notre prochaine étape. Quand t'as des actions coup de poing, on a quelques actions qui sont arrivées. Donc effectivement, la grève c'était une des plus explicites. Mais pour le moment, dans le pays, on est assez calme et ça vient au fur et à mesure.
Merci. Alors juste pour une dernière question, à moins que tu veux intervenir peut-être.
Oui. Moi, je voulais poser à Mariam et à toi, Olivier, une autre question. C'est que on parle énormément des studios indépendants. Or, il y a souvent une relation de maître à esclave entre éditeur de jeux vidéo et studio, quelle que soit sa taille. Il ne faut pas rêver. Est-ce que pour vous, une des solutions pour avoir des nouveaux droits, c'est les studios indépendants et puis des financements participatifs comme le crowdfunding, ou alors c'est juste une hype?
So part of the Game Workers Unite movement is also an attempt to rethink how we even organize as a company, right? So we've been very, very keen at taking very, very serious discussions about different models, right? So the idea of a cooperative is a whole very active chapter of our union. So for instance, the guy that made the Knights in the Woods, Con Benson, who created our logo, he is very keen on basically creating more cooperatives in this industry. So again, this is the ideal, right? That we would have more of that. But again, as Olivia said, there's just this sad idea of depolitization or libertarianism within the sector as well, which is very unfortunate. So for instance, I've kind of been very, very moved by my experience today, where I was brought to the picket line of the hotel workers, Ibis hotel workers here today in Paris, you know, with a very loud, incredibly sort of brash demonstration outside the hotel. And to me, I see this is how a union should be. This is what a union does. However, we have even seen some, you know, reactions from some of the games industry heads, mostly bosses, by being outraged by the fact that we used hashtag not us too, you know, as a hashtag, and that's radical apparently. Anyways.
Okay, alors je vais avoir un gros travail à traduire là. C'est parti. Alors, pour commencer, oui, alors elle est tout à fait d'accord avec Olivier sur la dépolitisation dans le jeu vidéo, dans cet univers qui vient effectivement de la tech. Et pire encore, s'il y a une politisation, c'est dans l'autre sens, c'est vers le libertarianisme de droite, c'est-à-dire plus de contraintes, totale liberté du capital, etc., etc. Donc c'est pas la bonne politisation dont on parle. Donc, c'est vrai que il y a plusieurs modèles, et donc quand Games Workers United a commencé à réfléchir sur le modèle économique de cet univers-là, effectivement, la question par exemple des coopératives de production s'est posée. La question d'un autre mode de travail s'est posée. Bon, alors ça, c'est des projets, dans la réalité, il se passe des choses qui peuvent être assez variées.
I'm sorry, you lost me there.
Ibis Hotel.
Right, no. Voilà. Donc ça y est, j'ai retrouvé le fil. Donc ce qui me donne du courage, par exemple, c'est aujourd'hui j'ai été sur le piquet des grévistes de l'hôtel Ibis des Batignolles, où là j'ai pu voir ce que c'était que du syndicalisme, on va dire, d'action directe. Ils ont fait un barouf d'enfer, ils ont fait le tour, ils sont passés sous les bureaux de la direction, tout en faisant un boucan de fou. Et ça c'est motivant parce que tu vois, on voit ce que ça peut donner un syndicalisme de combat sur le terrain, et c'est pas forcément parce qu'on a les meilleures conditions de travail, etc., etc., quoi. Parfois, c'est les plus démunis qui vont montrer exemple.
tu veux intervenir là-dessus? Oui, sur le sujet.
Pareillement, par rapport à la question des studios indépendants, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on met beaucoup en avant côté STJV, c'est essayer d'encourager les personnes qui veulent commencer à démarrer en scope. Bon, il y a plein de contraintes qui existent côté droit, mais c'est pas ma spécialité de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on en a déjà qui existent, en fait, dans le pays, niveau scope. On a Motion Twin qui est à Bordeaux et La Poule Noire qui est en Corrèze, qui sont des petites structures, mais qui effectivement réussissent leur travail. Motion Twin notamment a fait le jeu Dead Cells, qui a extrêmement bien marché à l'international, donc comme quoi c'est des modèles qui sont tout à fait possibles. Quant au fait que l'indépendance en fait sorte les gens de ces contraintes, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en France on a entre guillemets, enfin oui non, en vrai on a l'avantage d'avoir des financements de l'État par rapport au CNC, des crédits d'impôt, etc., qui sont effectivement très très profitables dans le jeu vidéo. Sauf que ces crédits-là, notamment côté CNC, sont en bonne partie sous contrôle des personnes qui sont au plus haut. Et du coup, ne pas être copain avec les bonnes personnes, vouloir faire son truc indépendant. Quand on répond que ton projet original, en fait, il est tout pourri et que t'as pas ton financement, c'est plus compliqué.
Merci. En tout cas, tu veux intervenir peut-être, Mireille.
There's a project that Game Workers Now International is kind of hoping to achieve is a certification of fair trade made games at some point.
Il y a un projet important que Games Workers United est en train de pousser, c'est une certification, un label de jeux équitables produits de manière équitable dans le respect des conventions et des droits et du droit du travail.
And hopefully that would be a selling point.
Et on espère que les compagnies un peu intelligentes en feront un point de vente, en fait, en feront un argument de vente que leurs jeux sont produit dans des bonnes conditions, sans écraser les salariés.
En tout cas, merci à tous d'être venus en tout cas à cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Quand tu reviens en France, tu reviens ici, il n'y a pas de souci. On va faire une petite chanson, ensuite on parlera du chômage. Merci. In the twilight, merci. Bon, on reprend la parole. Donc, on est sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi. Il y a de l'ambiance dans cette émission. Thank you very much. Mon anglais n'est pas parfait. It's not perfect. Je reprends le micro donc pour laisser la parole à Ludo, qui va nous parler un petit peu de l'actualisation du chômage, peut-être aujourd'hui. Ludo, qu'en est-il un petit peu maintenant de...
Oui, en fait, la convention UNEDIC devrait entrer en application le 1er novembre. Et donc, c'était juste pour rappeler brièvement aux chômeurs potentiels, ou qu'ils sont déjà, et désolé pour eux, on est désolé pour eux. Ce qui les attend, c'est qu'en fait, la convention en question réduit... Alors, vous savez qu'il y a un plan d'économie imposé par... Macron, qui est de 3 milliards et demi environ sur 3 ans. Et donc effectivement, elle va faire beaucoup de dégâts pour les plus précaires. C'est ça qu'il faut retenir de cette convention UNEDIC, et c'est un peu scandaleux parce que monsieur Macron nous a parlé de plan de pauvreté, que tout allait mieux, mais en réalité, il précarise les gens les plus faibles, et c'est les gens qui sont déjà dans une situation de précarité en termes d'emploi, et donc les plus jeunes, ceux qui déboulent sur le marché du travail, qui seront victimes de de cette réforme de l'assurance chômage. Alors comment? En indemnisant moins les gens, c'est-à-dire qu'ils devront travailler plus longtemps, donc 8 mois au lieu de 4, pour être indemnisés. Donc l'artifice est simple, vous demandez aux gens de travailler plus.
Pour toucher moins,
exactement, et se toucher sur une durée plus, en fait, sur une durée plus longue.
Oui, bien sûr.
En plus, donc voilà. Effectivement, c'est exactement ça. Et c'est aussi ceux qui travaillent, en fait, à temps partiel qui vont être impactés, puisque c'est eux qui, avant, vous savez, vous arriviez à faire à peu près alors il fallait faire un temps plein. C'était pas génial, mais enfin, le temps plein reportait vous rechargez vos droits. Or, désormais, et pour vous donner une idée, à l'époque, il fallait travailler un mois à temps plein, 150 heures. Désormais, il faudra travailler 900 heures, c'est-à-dire c'est multiplié par 6. Donc 150 heures, c'était un mois. 900 heures, ça fait, vous faites un petit calcul, hein, vous voyez, ça fait 6 fois plus, donc ça fait 6 mois de plus. Pour recharger, en moins, vous ne rechargez pas vos droits. Donc ça, c'est assez terrible. Et puis, pour les salariés... Pardon, voilà, c'est vicieux. Alors, donc, du coup, ça fait quand même 800 personnes qui sont concernées,
800 000.
Potentielles, 800 000. Selon les calculs de l'UNEDIC, c'est ce que je dis, pardon, 800 personnes, excuse-moi, 800 000, bien sûr.
800 000, oui.
Selon les calculs de l'UNEDIC. Hein. Oui, et enfin, vous serez beaucoup moins bien payé parce que jusqu'à maintenant, on s'arrangeait pour, disons, vous indemniser sur les périodes de travail, c'est-à-dire qu'on prenait votre salaire sur la période de travail. Bah, désolé, on va tout lisser maintenant, on va lisser sur un mois. Donc, je prends un exemple, vous travaillez 15 jours et puis vous avez 15 jours chômé, et ben, on lisse tout ça sur un mois et vous serez rémunéré à hauteur de ce que vous avez gagné sur un mois. Donc dans certains cas, ça reviendra à diviser en fait vos allocations par deux. Voilà. Et c'est ça en fait la lutte de Monsieur Macron contre la pauvreté et contre la précarité. C'est en fait précariser ceux qui sont déjà les plus précaires.
Voilà. Christophe,
plus
tu
fragilisés. Oui. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que 3,2 milliards d'euros, c'est le montant d'économie à minima. C'est-à-dire que ça se trouve, ça va être 4,5 milliards d'euros, oui, en fonction de la conjoncture économique.
Absolument, qui se ralentit, la conjoncture mondiale se ralentit maintenant. Je voulais juste faire une petite annonce pour dire que les cours à l'annexe de la Bourse du Travail, les cours de droit du travail ont repris. Donc c'est 67 rue Turbigot pour l'année 2019. Donc on essaiera de mettre les dates en ligne. C'est ce lundi 7 octobre portera sur les prud'hommes qui sont devenus difficiles d'accès. Donc ce sera donné par les cours sont donnés par des spécialistes, donc par Guillaume Cousin, qui est avocat du barreau de Paris, et puis qui est par Hélène Yvonne Ménot, juge prud'homale, le 4 novembre. Alors, c'est donc dans un mois. Le cours portera sur le pouvoir et ses limites dans l'entreprise, subordination, droit et liberté. À mon avis, ça doit être passionnant. Ça, c'est un cours. Ça sera par Julia Abin, qui est avocate aussi au barreau de Paris. Et le 2 décembre, le cours portera sur les emplois précaires du secteur public. Et ça sera donné par Guillaume Cousin. Enfin, vous avez la permanence qui se tient régulièrement, qui est conditions de travail et santé, qui est gratuite, anonyme et ouverte à tous, qui sera vendredi 4 octobre. Voilà, bon, c'est aujourd'hui, désolé. Voilà. Et donc, en tout cas, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site d'AC.org.
Très bien, merci à tous les deux. Cette émission se termine. Je remercie tous ceux et celles qui nous ont écoutés ce soir. N'oubliez pas de rester vigilants, de ne rien lâcher et surtout de participer éventuellement à nous aider à la radio en apportant ne serait-ce que 1 euro de temps en temps dans notre... Parce que nous avons un site dans lequel nous demandons de faire des dons.
Mais on accepte l'échec. Mais
on accepte l'échec, bien sûr.
Ouais, rue de la solidarité.
Voilà. Donc, bisous aux filles et poignées de mon garçon. Salut.
Bonsoir.
Bonne soirée.